Point de Mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Hélène Renard.
Bonjour dans l'émission Point de Mire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mireille Pastoureau, directeur de la bibliothèque de l'Institut. Une bibliothèque qui comporte des trésors, et ce sont ces trésors que vous allez nous dévoiler, à travers l'histoire d'une famille, d'une lignée, celle des imprimeurs Didot qui étaient liés à l'Institut Royal et l'Institut de France. Racontez-nous un peu comment cette famille d'imprimeurs s'est trouvée liée à l'Institut, justement.
Eh bien, en 1811, Firmin Didot fut nommé imprimeur officiel de l'Institut. Et c'était un personnage tout à fait brillant à l'époque, plein de talent. Et cette charge est restée dans la famille Didot, qui ensuite s'est appelée Firmin Didot, jusqu'en 1939, jusqu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale.
Donc c'est une famille qui de père en fils se transmettait la charge, si on peut dire. Comment
exactement
ça s'est passé? Quel était le premier des Didot alors?
Voilà, c'est une famille qui s'est transmis la charge, mais qui a eu une telle capacité d'invention et de talent, et que même un membre au 19e siècle est devenu membre d'une académie. Donc c'était plus qu'une charge, c'était vraiment l'expression de talent. Ils étaient sans doute les meilleurs sur la place de Paris dans leur domaine.
Alors ils étaient à la fois imprimeur, mais il est aussi libraire, graveur.
Exactement, ils sont devenus tout cela. Alors, vous me parliez de l'origine de la dynastie. L'origine de cette dynastie, c'est sous Louis XV, François Didot, qui est devenu imprimeur. C'est le premier imprimeur de la famille. Il venait tout simplement d'une famille de marchands. Et il était un simple imprimeur, éditeur. Il était l'ami de l'abbé Prévost. Il a donc imprimé toutes les œuvres de l'abbé Prévost. On connaît notamment l'histoire générale des voyages.
Le pour et le contre qui porte un titre alors qui m'a beaucoup fasciné. Ouvrage périodique d'un goût nouveau dans lequel on s'exprime librement sur tout ce qui peut intéresser la curiosité du public en matière de science, d'art, de livres et d'auteurs. On pourrait faire plus court comme titre, mais enfin, c'est assez fascinant. Oui. Donc cet abbé Prévost, c'était donc l'ami de François Didot, dont je dis les dates 1689-1757, premier de cette lignée d'imprimeurs Didot, voilà, dont nous parlons aujourd'hui avec Mireille Pastoureau. Ce premier Didot a eu un fils, je suppose, qui a pris sa succession.
Exactement. Et alors là, on commence à découvrir des personnalités tout à fait intéressantes, pleines de capacités d'invention. Ce fils, c'est François Ambroise, à son tour libraire-imprimeur, après son père. Mais alors, il est plein de nouvelles idées. Est-ce que vous voulez qu'on évoque toutes ces inventions?
Bien sûr, parce que c'est surtout un novateur technique. Et
exactement,
ça m'intéresse beaucoup,
voilà,
bien sûr.
Et nous sommes dans une époque, au XVIIIe siècle, où toutes les techniques se développent beaucoup, souvent à l'imitation de l'Angleterre à cette époque. Mais il y avait une saine émulation entre les deux pays. Donc, il a eu l'idée de développer une presse à imprimer, la presse à un coup, qui permettait d'imprimer beaucoup plus vite que précédemment. Il a eu l'idée également de mettre au point la mesure des caractères typographiques. C'est lui qui est l'inventeur du point typographique, qui est une façon de mesurer les caractères, qui a perduré pendant très longtemps.
Oui, on s'exprime en point quand on travaillait autrefois dans le plomb à l'imprimerie. Voilà, on disait une ligne de tant de points, en effet. Voilà. Donc, j'ai découvert grâce à vous et au dossier que vous avez fait, Mireille Pastoureau, je le signale aussi, sur le site de la bibliothèque de l'Institut de France, un dossier sur les Didot qui est extrêmement complet et intéressant. Donc, il invente ce François Ambroise Didot, le point typographique, et donc la mesure.
Et du caractère, exactement. Et il introduit en France le papier vélin. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est un papier qui avait été mis au point en Angleterre. C'est un papier qui a l'aspect du vélin qui, au Moyen-Âge, était la peau de veau, le parchemin sur lequel on écrivait. C'est un papier extrêmement velouté dans lequel on ne voit pas les marques des vergures et des pontuseaux, ces lignes verticales et horizontales qui font le papier vergé. Ce papier vélin est coulé dans une forme métallique qui a donc un grain très très fin. Et c'est un un papier de luxe, qui est réservé aux éditions de luxe, et qui va convenir très bien pour les impressions avec le nouveau caractère typographique que les Didot vont inventer.
Et qui s'appelle le Didot, justement, voilà. C'est un caractère.
Voilà. Exactement. Et pour finir, sa plus grande invention, c'est le caractère typographique Didot, qu'il a mis au point avec ses fils, Pierre et Firmin, surtout Firmin, qui était graveur de caractère à l'origine. À l'âge de 18 ans, il était mis en apprentissage chez le graveur de caractère de son père, et sous la direction de son père, il a cherché, donc on voit dans les livres que nous avons exposés, on voit toute la progression, toute la recherche de caractère. Le caractère auparavant qui était utilisé était le garamond, et François-Ambroise Didot ne l'aimait pas beaucoup, donc il a cherché, et ce caractère Didot qui a été mis au point par la famille a eu un très grand succès pendant tout le 19e siècle. Il y a eu toute une évolution des caractères qui en ont dérivé, mais il a des caractéristiques principales qui sont une grande élégance, une élévation dans la hauteur, un contraste marqué entre les pleins et les déliés,
oui,
ce qui lui donne effectivement un caractère très sérieux, un aspect assez sérieux, et des empattements très fins sur la ligne. Les pieds des lettres sont très fins sur les lignes. Alors maintenant, avec l'édition par ordinateur, on ne se rend plus compte de ce qu'était ces caractères.
Oui, mais dans l'édition sur livre, on utilise encore même le Garamond, le Baskerville, voilà. Tout ça, ce sont des caractères d'imprimerie qu'on utilise encore. Oui. Et donc le Didot, bien sûr.
Voilà.
Alors, donc, François-Ambroise Didot avait fait aussi la connaissance d'un personnage assez fascinant, c'est Benjamin Franklin.
Oui, c'est une anecdote que j'ai découverte à l'occasion de cette recherche. Benjamin Franklin a séjourné en France dans les années 1770-1780, comme ambassadeur des États-Unis, qui venait d'être une république, et c'était un ancien imprimeur.
Ah, donc ils se sont trouvés des points communs.
Donc, il s'est lié d'amitié avec François-Ambroise. Il avait son petit-fils avec lui. Le Franklin avait amené son petit-fils d'Angleterre. Il l'a mis en apprentissage chez François-Ambroise Didot. Et nous avons une petite gravure qui montre Benjamin Franklin ancrant lui-même une planche, une forme avec deux rouleaux encreurs et le petit-fils à côté, et tout ça dans l'imprimerie de François-Ambroise Didot. Et Benjamin Franklin avait également des liens avec l'Institut. Avec l'Acte, c'était pas l'Institut, c'était l'Académie des sciences à l'époque. Il était membre de l'Académie des sciences. Et la famille Didot avait son imprimerie rue Jacob, qui n'est pas loin de l'Académie. Donc voilà.
Oui, elle est restée d'ailleurs très longtemps,
cette
imprimerie. Alors, les publications de François-Ambroise Didot, je vois qu'il imprimait pour le frère de Louis XVI, le comte d'Artois, pour le futur Charles X, c'est cela,
exactement.
Pour le dauphin. Alors, il a fait beaucoup de livres pour le dauphin.
Tout
ça,
à fait.
Bien. Commandé par le roi, alors.
Exactement. C'est un homme qui a donc très bien réussi. Et nous sommes avant la Révolution. C'est un homme de l'Ancien Régime qui travaille beaucoup pour la famille royale. Et ce qui est très, très curieux et très intéressant, c'est que cette famille Didot a traversé ensuite la Révolution sans encombre. Ils n'étaient absolument pas inquiétés, alors qu'un autre imprimeur du roi est monté sur l'échafaud. Les Didot, eux, n'ont pas du tout été inquiétés, tout simplement parce qu'ils avaient un tel savoir-faire, une telle compétence, que les fils Didot ont été requis pour imprimer les assignats. Ils étaient les seuls à faire des gravures qui ne pouvaient pas être contrefaites. On avait tellement besoin d'eux qu'on n'a pas pensé à sanctionner la collaboration du père avec tous les membres de la famille
royale.
Comme
quoi, il faut savoir se rendre indispensable, n'est-ce pas?
Exactement.
Alors, donc, c'est ainsi qu'a été imprimé par ordre du roi pour l'éducation de Monseigneur le Dauphin les aventures de Télémaque de Fénelon, par exemple.
Exactement.
Alors, d'autres trésors que vous avez aussi à la bibliothèque de l'Institut.
Parce que François-Ambroise Didot est à l'origine d'une spécialisation de la famille dans les auteurs classiques. C'est une famille qui respectait énormément les auteurs classiques, aussi bien les auteurs antiques que les auteurs modernes considérés comme classique. Vous avez cité Fénelon, mais il y avait aussi Boileau, Racine, on voit le Tasse, la Jérusalem délivrée. Et c'est le premier également qui est pensé à créer des collections de ces auteurs. Et ça, c'est une spécialité que la famille ensuite va conserver. Et ils auront un énorme succès au 19e siècle avec leur collection d'auteurs classiques, tant français qu'antiques.
Donc, on leur doit beaucoup. Et alors, dites-moi, à l'Institut, vous avez un rayonnage spécial pour mettre tout cela? Comment ça se présente dans la bibliothèque?
Eh bien, les livres ne sont pas classés par spécialité. Ils sont classés par ordre d'arrivée. Donc, les livres, on ne peut les retrouver que par le catalogue. D'où l'importance du catalogue que nous informatisons actuellement. Mm-hmm. C'est un gros chantier. Mais il y a déjà 30% du catalogue des livres qui est consultable en ligne sur Internet. Gratuitement et commodément. Donc, pour retrouver un livre, il faut passer par le catalogue, parce que si vous allez en réserve, eh bien non, vous n'avez pas tous les livres des Didot, vous n'avez pas tous les Racines, vous n'avez pas tous les Homères ensemble.
C'est pas classé comme cela. Ouais.
Non, c'est plutôt classé par format, afin de gagner de la place.
Alors, François Ambroise Didot, je m'en mêle un peu dans les prénoms.
Ils s'appelaient tous il un
a
peu
eu,
pareil.
Voilà, ils s'appellent à peu près tous pareil. Il a donc eu un fils aîné, Pierre, et un cadet, Firmin. Alors, on parle d'abord de Pierre?
Volontiers. Il a arrêté ses activités professionnelles en 1789 et il a donné son imprimerie à Pierre et sa fonderie de caractère à Firmin. Mais les deux frères, ensuite, ont travaillé très étroitement. Ils s'entendaient très bien, ils étaient liés par des liens d'amitié et puis par la passion du livre et de la typographie. Donc, il y a plusieurs publications qu'ils ont faites conjointement. Pierre est surtout célèbre par ses livres d'artistes. Pierre Didot est à l'origine de ce que nous appelons aujourd'hui le livre d'artiste, c'est-à-dire des très beaux livres par la composition typographique, par le papier, par le format, de grand format, mais et surtout par les illustrations commandées spécialement à de grands artistes. Et c'est ce que Pierre Didot a essayé de faire.
Alors, Pierre Didot, je glisse entre parenthèses ses dates pour qu'on s'y repère un peu dans toute cette saga familiale. Donc, Pierre Didot, dit l'aîné, 1761-1853. Et donc, c'est lui qui, justement, par exemple, a publié les éditions de La Fontaine avec des gravures de Fragonard, n'est-ce pas?
Exactement.
Et ça, vous avez ça aussi dans vos trésors de l'Institut.
Nous avons... Ah oui, le fond de livre est tout à fait intéressant. Bon, il y a d'autres bibliothèques à Paris avec des livres anciens, mais l'Institut a un très beau fonds qui lui vient de diverses origines. Il faut savoir que quand l'Institut a constitué sa bibliothèque, quand l'Institut a été formé en 1795, il a été autorisé à puiser dans les dépôts littéraires pour se constituer un fonds de départ. Dépôts littéraires où avaient été rassemblés les livres confisqués aux condamnés, aux émigrés, aux clergés. Donc l'Institut est allé choisir des livres et également on lui a donné comme fonds de départ, puisque c'était une institution neuve. Les académies ont été supprimées en 1793, l'Institut fondé en 1795. Et dès 1796, un an après, on lui donnait une bibliothèque parce qu'il fallait absolument des instruments de travail les académiciens. Donc, comme fonds de départ, on lui a donné la bibliothèque de la ville de Paris de l'époque. Le maire avait été guillotiné, il n'y avait plus personne pour veiller sur la bibliothèque de la ville.
À tout malheur, quelque chose est bon, donc.
C'était tout à fait bénéfique, parce que si elle était restée à l'hôtel de ville, elle aurait brûlé pendant la Commune.
Absolument.
Donc voilà, elle a été sauvée grâce à l'Institut.
Bon, donc il y a aussi Pierre Didot qui publie alors quelque chose qui est considéré comme un événement, c'est le Grand Virgile. Alors, qu'est-ce que c'est que le Grand Virgile?
Oui, alors ça, c'était l'œuvre d'un grand nombre d'années. Il a commencé en 1791 et il l'a publié en 1798. Il s'est presque ruiné. Il a été autorisé à installer ses presses au Louvre, là où se trouvait auparavant l'imprimerie royale. Le gouvernement révolutionnaire lui faisait confiance pour porter l'art du livre à son sommet. Donc, il a voulu faire quelque chose de grandiose. C'est un livre de format in-folio, entièrement en latin, et avec des gravures magnifiques, notamment de Giraudet, de Gérard, et à l'exposition Giraudet au Louvre. Ce livre est également exposé actuellement. C'est l'exemplaire de la Bibliothèque nationale. Et toute une salle est consacrée également à ce livre et à un autre, le Racine, publié par Pierre Didot. C'est un genre de livre qui, après, n'a pas été renouvelé parce qu'il était trop coûteux. C'était des livres qui étaient presque invendables.
Au fond, ils se faisaient plaisir,
exactement,
n'est-ce pas ? Ils faisaient des choses ruineuses,
voilà,
qui intéressaient certainement un public, mais un public très fortuné, donc ça ne pouvait peut-être pas lui assurer une grande fortune. Alors, il avait donc un frère, vous avez dit que les deux frères s'entendaient très bien, et ce fameux frère, c'est Firmin Didot, 1764-1836. Et alors, à ce Firmin Didot, on doit aussi beaucoup de choses nouvelles.
Tout à fait. Et d'après un spécialiste, qui est un grand libraire, qui s'appelle André Jammes, qui le premier a attiré l'attention sur les Didot. Donc d'après André Jammes, c'est Firmin qui est la personnalité centrale de la famille. Firmin a commencé, on l'a vu, comme graveur et fondeur de caractère à l'âge de 19 ans. Et il a mis au point un certain nombre de techniques très importantes pour la typographie et l'art du livre. Il a mis au point le caractère à l'anglaise, cette écriture à l'anglaise que nous connaissons bien, qui est une écriture penchée.
Oui, oui, élégante.
Élégante,
et qui sert pour les faire part de mariage.
Exactement. Et qui est très difficile à rendre sur le plan de la typographie, parce qu'on ne l'imprime pas lettre à lettre, parce qu'on verrait, sans cela, un espace entre les lettres.
Oui.
Donc, il faut arriver à faire des blocs. On coupe les caractères en leur milieu, et après, pour le compositeur, c'est assez difficile d'identifier le caractère pour imprimer. Donc, il a eu beaucoup de mal, mais il a mis le caractère à l'anglaise au point. Il a également inventé la stéréotypie qui a fait la fortune de la famille. La stéréotypie, c'est une façon d'imprimer les pages où tous les caractères sont soudés par page.
Ah oui.
Donc, vous n'avez plus après, au moment de la composition, d'occasion de faire des erreurs. Une fois que la page est composée et qu'elle est corrigée, elle est immuable.
On ne peut plus bouger.
Voilà. Donc, ils étaient détenteurs de ce brevet. Ils l'ont vendu dans l'Europe entière. Il y a eu des quantités de livres, même populaires, et des éditions d'auteurs pour la jeunesse ou autres, imprimées avec le procédé de la stéréotypie. Et nous montrons le premier livre imprimé en stéréotypie, ce sont des tables de logarithmes. Donc là, on retrouve les sciences.
Voilà.
Voilà.
Ça prouve qu'il avait le gène inventif, il avait hérité de ce gène. Et alors, ce Firmin Didot était aussi un homme extrêmement cultivé, lettré et passionné de lettres antiques.
Exactement. C'est une famille où on apprenait le latin et le grec dès l'âge de 5 ans. Ils étaient tous vraiment très intéressés et ils ont tous fait des traductions. Et notamment lui, il a fait d'une part des traductions, mais aussi, il s'est essayé à l'écriture parce qu'il avait l'ambition d'entrer à l'Académie française. Il a été candidat 2 fois et lorsqu'il était candidat pour la 3e fois, il est mort subitement. Il aurait peut-être été élu parce qu'il jouissait d'une excellente réputation.
Donc, il avait écrit des pièces qui n'ont pas eu le succès qu'elles auraient mérité.
Il a écrit 2 pièces de théâtre. Alors, une a été représentée, c'est La Reine de Portugal. Mais malheureusement, celle qui s'intitulait Hannibal, qui était qualifiée du genre classique le plus sévère, n'a pas trouvé de metteur en scène et n'a pas été représentée. C'était des personnes, il faut dire, très sérieuses, érudites et sérieuses.
Oui, c'est ça. On ne faisait pas du théâtre pour s'amuser, seulement pour cultiver le public, je suppose.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Alors, ce Firmin Didot lui-même a eu des enfants, il a eu des fils. Est-ce que la lignée s'est poursuivie derrière lui ?
Voilà, tout à fait. Il a eu 3 fils, Ambroise, Hyacinthe et Frédéric, qui ont reçu l'autorisation de porter le nom comme patronyme de Firmin Didot, ce qui montre la notoriété de leur père. Mais les fils ont dû se séparer de la fonderie de caractère. Donc, à partir de cette génération-là, la maison d'édition a continué à prospérer, mais il n'y a plus eu d'invention technique comme on en avait vu dans les éditions précédentes.
Peut-être que tout était
dans
les générations
précédentes.
Eux, ils ont plutôt développé un niveau
possible,
plus populaire.
Oui, et puis on entrait dans l'ère industrielle. On ne faisait plus les livres peut-être d'une façon aussi artisanale. Donc leur imprimerie avait beaucoup de succès. Mais ils ont perdu ce côté artisanal qu'avaient leur père et leur grand-père.
Alors néanmoins, ces Firmin Didot frères avaient un privilège qui était de pouvoir imprimer et vendre, je suppose, distribuer aussi, le dictionnaire de l'Académie française.
Tout à fait. Ils s'étaient portés acquéreurs, en quelque sorte, du dictionnaire. C'était tout à fait légal. Il y avait une délégation de propriété et c'était eux qui pouvaient poursuivre les contrefacteurs s'il y avait des éditions pirates. Ils avaient vraiment une délégation de propriété et des liens très étroits qui ont continué avec les académies et l'institut. Oui, au point qu'ils ont adopté comme marque de libraire la façade de l'Institut, qu'ils imprimaient alors dans une petite vignette circulaire inscrite dans un serpent qui se mord la queue, qui est signe d'immortalité, ce qui convenait bien à l'institution. Ce serpent, c'est signe aussi de prudence, de sagesse. Et cette façade de l'Institut figure sur leur publication, c'est leur marque de libraire. Et ce qui est amusant, c'est qu'un Américain avait remarqué la chose, mais dans un livre, il a dit que c'était la façade du Panthéon.
Ah, il a un peu confondu, mais vu de loin, évidemment.
Voilà.
Alors, ce qui m'a fasciné aussi, c'est que ces Firmin Didot, frères, ont acquis, ont publié les œuvres complètes de Piranèse, qui sont évidemment illustrées par des gravures, quand on connaît Piranèse, tout à fait exceptionnelles.
Exactement, et ça, c'est une chose qui n'est pas très connue. Alors, je n'ai pas retrouvé les planches à la bibliothèque de l'Institut. Je ne sais pas si la bibliothèque a reçu ces planches, mais ce qui est certain, c'est que lorsque les célèbres cuivres des planches de Piranèse ont été vendus à la mort du fils de l'artiste vers 1810, eh bien, ce sont les frères Firmin Didot qui ont racheté ces planches, et il y avait à peu près 2000 planches, et ils les ont retirées. Et d'ailleurs, les spécialistes savent, lorsqu'on trouve une gravure de Piranèse sur le marché, savent distinguer le retirage du tirage original. Il faut être très prudent pour les Piranèses.
Bon, avis aux amateurs. Alors, Mireille Pastoureau, il nous reste à évoquer, je crois, un des derniers, c'est Ambroise Firmin Didot, qui est lui 1790-1876. Alors, quelle est sa caractéristique, cette Ambroise,
oui,
de nouveau, parce que...
Encore le prénom, toujours, de familial. Alors, lui, c'est l'homme du grec et de la Grèce.
Ah.
C'est tout à fait intéressant. Passionné par le grec ancien, il s'est aussi beaucoup intéressé à la Grèce de son époque. Il avait fait un voyage lorsqu'il était tout jeune, et nous étions au moment du mouvement Philhellène, au moment où la Grèce obtenait son indépendance,
se révoltait contre les
contre
Turcs.
Les Turcs.
Oui.
Et il a participé activement à ce mouvement, et il a tenu à offrir lui-même le premier matériel d'imprimerie que la Grèce a possédé pour pouvoir être autonome et indépendante sur le plan de l'imprimerie. Et j'ai lu que ce matériel était toujours conservé à Athènes, avait été retrouvé et existait toujours.
Alors, Mireille Pastoureau, vous nous racontez plein de belles anecdotes sur cette famille d'imprimeurs. Finalement, cet Ambroise Firmin Didot a tout de même fini comme membre de l'Académie. Alors,
exactement.
Il faut le dire, de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres.
Exactement. Il est devenu membre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres en 1872. C'était un véritable érudit. Il avait fait des traductions de grec et il avait édité également tellement de textes grecs anciens qu'il a rendu d'éminents services à l'histoire de la langue grecque. Il a réédité notamment le trésor de la langue grecque d'Estienne, qui datait du XVIe siècle, qui avait été complété au fil des années, mais n'avait pas fait l'objet d'une réédition parce que c'était une entreprise très coûteuse. Et Ambroise Firmin Didot, on peut parler vulgairement, avait les moyens par son industrie, son imprimerie, et donc il a pu consacrer une partie de ses revenus à l'édition de ce trésor de la langue grecque d'Estienne, qui était une édition à fond perdu, qui n'était pas rentable, mais qui est magnifique sur le plan de la typographie.
Et cette édition se trouve aussi à la bibliothèque
de l'Institut. Exactement,
à la
bibliothèque. Elle est illustrée de vignettes qui retracent l'histoire de la famille Didot. On voit le tsar visitant l'imprimerie de Firmin Didot. C'est assez amusant. Et Ambroise Firmin Didot était également un grand bibliophile, et d'après André Jam, qui est très compétent et très savant, était sans doute le plus grand bibliophile de son temps, ce qui n'est plus connu parce que sa collection a été vendue à sa mort. Il possédait beaucoup de manuscrits enluminés qui sont allés à la Bibliothèque nationale. C'était un homme qui avait la passion du livre.
Un de plus.
Un de plus.
Voilà, et c'est ce que vous nous transmettez aussi. On voit bien que vous aussi, vous êtes habité par la passion du livre. Donc, Mireille Pastoureau, vous avez évoqué André James. Alors, je vais donner pour nos auditeurs une référence de bibliographie, parce que ça peut les intéresser. Donc, il a publié avec Françoise Courbage « Les Didots, trois siècles de typographie et de bibliophilie ». Et c'est un catalogue d'une exposition qui a lieu à la ville de Paris et à Lyon. qui date de 1998. Donc, si on cherche, on doit pouvoir le trouver assez facilement. Je voudrais aussi dire que vous pouvez donc consulter le site de la bibliothèque de l'Institut de France pour vous informer sur cette bibliothèque, mais aussi pour retrouver tout ce dossier sur la famille Dido imprimeur de l'Institut. Alors, c'est www.bibliothèque-institut-de-france-institut-de-france-en-un-seul-mot.fr. Voilà, c'est un site que l'on vous doit, je crois, Mireille Pastoureau, que vous avez initié.
Merci beaucoup, avec mes collègues, mes collaborateurs, bien sûr. Il a ouvert en juin et je suis très heureuse que vous donniez l'adresse parce qu'on ne le trouve pas encore très bien grâce au moteur de recherche. Il n'est pas encore très bien référencé.
Ça va sûrement s'arranger.
Voilà.
En tout cas, il nous faut peut-être préciser aussi pour nos auditeurs que la bibliothèque de l'Institut n'est pas ouverte au public, sauf pour les chercheurs. Donc,
faut
ce n'est pas une.
Voilà,
il faut demander l'autorisation.
Voilà. Oui.
Néanmoins que vous organisez régulièrement des expositions dans des vitrines qui se trouvent à l'extérieur de la bibliothèque et donc là on peut venir les consulter et les regarder et les admirer si l'on est intéressé. Donc la prochaine, on peut savoir la prochaine exposition pour le début de l'année 2006
Oui, même avant, ça sera à la mi-décembre, ce sera l'histoire du fauteuil de René Girard qui va être installé au 37e fauteuil de l'Académie française et traditionnellement. Traditionnellement, lorsqu'un nouvel académicien français est reçu sous la coupole, je retrace l'histoire de son fauteuil en exposant des œuvres imprimées ou manuscrites de ses prédécesseurs. Donc, il amène toutes ses œuvres sur les tables de la bibliothèque avant de descendre sous la coupole. Et ensuite, les ouvrages sont mis en vitrine et présentés pendant 2 à 3 mois.
Très bien, donc je vois que vous êtes la grande spécialiste des fauteuils de l'Académie française, ce qui est une spécialité inattendue. Mireille Pastoureau, il me reste à vous remercier d'être venue sur Canal Académie dans notre studio. J'espère qu'on vous retrouvera pour d'autres émissions parce que nous avons pris grand plaisir à découvrir avec vous les trésors de la bibliothèque de l'Institut de France. À bientôt et merci.
Merci beaucoup, à bientôt.